admirer, admirable, admirateur, admiration, sentiment éprouvé à l'égard de quelqu'un qui réalise un certain idéal de grandeur, de noblesse ou de beauté. Émerveillement, enthousiasme, ravissement, dit le dictionnaire. Adoration, extase, qui dit mieux ?
Pascal Paradou.
Comment rendre compte de sa passion pour la littérature, de l'admiration pour un écrivain, une écrivaine et pour une œuvre ? Dans son nouveau livre, Sami Tchak célèbre l'autrice mauricienne Ananda Devi dans un livre hors norme, mi-essai, mi-roman, où il est question de vie, de mort, de sexe, de mots et donc de la puissance de la littérature. Bonjour Sami Tchak.
Bonjour.
Et vous avez une étrange conception de l'admiration, car ce livre se nomme « Profaner Ananda ». Le lecteur peut être un peu surpris.
C'est vrai. Je pense que le lecteur, le mot « profaner », bon ben, on a déjà eu ce, oui, ces remarques-là. Tout de suite, « profaner », on part sur une autre piste. Mais on oublie quand même que quand on parle de profanation, ça signifie qu'on a d'abord sacralisé. Donc, il y a une dimension de sacralisation avant qu'on ne parle de profanation.
On ne profane que les temples, dites-vous.
Voilà, c'est... et le temple en littérature, ça veut dire ben, ce qu'on met vraiment au sommet.
Donc, parce qu'on adore, on peut profaner. Mais ça veut dire quoi, profaner, dans ce cas-là ? C'est pas forcément détruire. Vous dites que c'est plutôt de l'ordre de l'accaparement, de la fusion.
Oui, parce qu'il y a une dimension dans l'adoration. Quand on parle du sacré, qui est plutôt une attitude passive. On reçoit quelque chose qui vient verticalement, alors que la lecture quand même d'une grande œuvre signifie que nous l'appelons à nous, nous nous mettons quand même dans un dialogue avec elle. Elle n'est pas quelque chose situé au-dessus de nous pour nous infuser ce qu'elle contient. C'est plutôt nous qui entrons en communication avec elle pour lui donner le sens qui vient en grande partie de nous. Lire, c'est aussi projeter dans une œuvre nos expériences de lecture, nos expériences de vie. Dans ce cas-là, nous ramenons l'œuvre dans un dialogue horizontal. Si on l'a d'abord sacralisé, ce moment, je l'appelle profanation.
Donc, comme dans l'amour physique, il faut faire corps avec l'œuvre.
Ben c'est vraiment, disons que cette symbolique convient d'ailleurs très bien à ce livre. Comme dans l'amour physique, quelle que soit l'admiration qu'on a ou l'adoration qu'on a, il y a ce moment de fusion temporaire ou durable qui fait que l'amour prend une autre dimension. Du coup, ici, la profanation est peut-être le moment où l'œuvre naît au lecteur ou à la lectrice et où le lecteur ou la lectrice naît à l'œuvre. Dans cette sorte de fusion, dans ce moment où la lectrice ou le lecteur a l'impression que l'œuvre lui est exclusivement destinée.
Alors, on va parler du livre qui est composé de différentes parties,
oui, oui.
Certaines qui sont plus des essais, et puis il y a une grande part de fiction,
oui,
où le narrateur dit vouloir manger Ananda.
Oui, oui.
C'est ça la profanation ?
Oui, c'est, disons, un petit jeu avec le livre d'Ananda, manger l'autre. Quelque part, manger Ananda, c'est-à-dire une injection qui signifierait « j'ai digéré son œuvre, elle fait partie de moi, elle entre en moi, dans ce cas-là, l'auteur aussi entre en moi. »
Alors, comme vous le reconnaissez, Sami Tchak, il y a quand même quelque chose d'assez violent dans ce mot de profaner, dans idée de profanation. Mais c'est vrai que la violence est au cœur de l'œuvre d'Ananda Devi. Ce qu'elle nous disait d'ailleurs à l'occasion de la sortie de son livre « Le jour des caméléons » en 2023.
Ma passion pour la langue, pour les mots, pour les phrases, pour la musique des mots, fait que même lorsque je raconte l'horreur, il y a toujours dans mon écriture, dans ma manière d'écrire, je dirais, une sorte de musique intérieure qui peut être terrifiante, mais qui peut attirer le lecteur à ses dépens dans un univers d'une violence insoutenable. Et peut-être que c'est aussi une manière pour moi de pouvoir pénétrer cet univers-là, de me laisser être consolée par la langue, par le style, par l'acte même d'écrire devient consolateur par rapport à la terreur que provoquent parfois en moi ces images qui me passent en tête, à l'esprit et aussi à travers le corps.
Ananda Devi qui parle du corps, quelle est la place du corps chez elle et chez vous, Sami Chak?
Oui, et chez Ananda, comme d'ailleurs dans la première partie où Annie Ferret analyse son œuvre, le corps est le lieu de cette transition de la violence dont elle parle elle-même et le lieu de toutes les possibilités de conciliation, de séparation, puisqu'il est le lieu du tout. Dans ce cas, dans ce lieu du tout, elle parvient, je parle d'abord d'elle, elle parvient quand même à nous faire ressentir toutes les terreurs qui la révoltent ou qu'elle observe, mais à nous faire aimer aussi, même cette terreur-là, par la dimension poétique de son écriture. Chez moi, le corps est aussi le lieu d'une tentative d'observation du monde, mais aussi d'une réflexion philosophique sur l'existence humaine. Je pars de l'idée que cette dimension périssable des êtres, le corps, est peut-être le lieu de tous les mystères. Donc, sa présence est au cœur de ce qu'elle fait. C'est aussi ce qu'il y a au cœur de mon travail. C'est même l'une des raisons qui nous a plutôt rapprochés.
Donc, il y a un écho entre votre œuvre d'auteur et son œuvre d'autrice.
Oui, il y a un écho. Il y avait un écho avant qu'on ne se rencontre il y a 24 ans. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il n'y a même plus eu un seul livre où l'un ou l'une ne fait une référence explicite ou implicite à l'autre. Donc, on a passé depuis 24 ans notre temps à établir des échos conscients entre nos textes.
Donc, dans ce livre Profané en Anda, vous avez imaginé une fiction assez torride et hors temps pour lui rendre hommage. Cette fiction, c'est une rencontre entre Ananda l'écrivaine et Ananda le Bouddha, qui fut 34 fois roi des cieux. Mais le temps d'éloigner les enfants, parce que c'est un peu torride, la douceur de Keren Anne avec son nouveau titre « Paris Amour ».
Je sais que mes mains qui ne cherchent d'habitude que l'ivoire et l'ébène d'un piano de salon, que la peau de mes doigts racornis durcis par des cordes usagées de bronze et de nylon font de moi une pierre, une folle cavalière qui n'est que passagère. Je sais que mes yeux ne cachent plus la blessure des longtemps enterrés au fond de mes bagages, et que sur le terrain nul ne paraît très sûr, ni la vue imprenable, ni le parfum sauvage de la haute altitude et son allié absurde, la sublime solitude. Je sais que ton cœur, tant brisé par une autre, est venu rechercher un peu de réconfort. N'en déplaise la rumeur sur le pas de ma porte, sans même l'ombre d'un doute, tu es viré de bord. Tu as poussé offshore, je m'en souviens encore, jusqu'au fond de l'impasse, tous ces hommes pleins d'audace qui me parlent à voix basse, mais qui souvent, hélas, me laissent de glace. Je suis bien peu de choses, qui me reste le reste d'une foutue promesse. Que l'amour sans lendemain, tu en as eu ta dose. Que le bonheur, la joie, tu les fuis de justesse. Pour ce vieil interlude, cette affreuse habitude, cette divine plénitude.
Keren Anne sur RFI avec La Sublime Solitude, qui est l'un des titres de son prochain album Paris Amour. Sami Tchak est notre invité aujourd'hui pour son livre Profané Ananda, tout entier consacré à l'autrice du Sari Vert, Le jour des caméléons, où la nuit s'ajoute à la nuit, pour citer les derniers titres de ses romans en date. Et les titres des romans sont importants, et les romans sont importants, bien sûr, parce que votre rencontre avec elle s'est faite par les livres, par la littérature.
Oui, ben, j'ai rencontré Ananda par la littérature à partir de son livre « Moi l'interdite ». Elle publie « Moi l'interdite » en 2000 aux éditions Dapper, qui n'existe plus malheureusement. Et à partir d'un entretien qu'elle a eu avec Boniface Mongo Moussa, je la découvre. Je cherchais à lire ce que je pouvais trouver. Elle n'était pas encore connue dans la mesure où elle était publiée sur le continent africain ou à l'Armatan. Et puis, un an plus tard, grâce à la collection Continent Noir où mon livre Place des Fêtes devait sortir et le sien Pagli, nous nous rencontrons. Et depuis, une complicité, très très grande complicité littéraire s'est établie entre nous. Voilà.
Et vous êtes un couple littéraire fusionnel, écrivez-vous. Ouais. Mais c'était un coup de foudre. Vous pourriez raconter ça comme un coup de foudre, comme une histoire d'amour, finalement?
Pour moi, ça a été un véritable coup de foudre, quand même. La lecture de Moi l'interdite, ça a provoqué quand même cette sorte de passion immédiate pour l'auteur. C'est pour ça que pour moi, lire un grand texte, lire une grande œuvre, et se dire amoureux de la personne derrière, ça va de pair. Quand je rencontre Ananda, la personne Ananda, il y avait quand même quelque chose qui l'ennoblissait, ce que j'avais lu d'elle. Ce que j'avais lu d'elle m'avait conquis. Quand je l'ai vue, ça a été le même coup de foudre que celui provoqué par son œuvre.
Mais parfois, en rencontrant les auteurs ou les artistes, on est déçu. On peut préférer l'œuvre à l'homme ou à la femme.
Mais ça arrive même assez souvent. Mais heureusement, dans notre cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est plutôt une sorte de passion pour une personne qui a une telle douceur dans son attitude, même dans sa parole, et qui parvient à donner de la poésie à des textes aussi cruels.
Pour qui ne connaît pas bien son œuvre, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ananda Devi, vous qui avez donc tout lu?
Oui.
Parce qu'il y a la violence qu'elle a déjà évoquée, on a parlé du corps, de la chair, il y a l'île Maurice qui est très présente et très importante. Que faut-il dire d'autre pour donner envie? Parce que ce livre peut permettre aussi de découvrir la littérature d'Ananda Devi.
Disons, pour m'en tenir vraiment à ce qui fait la littérature, ce qui est beau chez Ananda Devi, tous les sujets qu'elle traite, que ce soit en poésie, par la fiction ou les nouvelles, ce qui est quand même beau chez Ananda Devi, c'est vraiment ce travail sur la langue. On a l'impression d'une langue qui la possède elle-même. Elle le dit d'ailleurs, c'est comme si elle la recevait de quelque chose ou de quelque part. Elle a une dimension. Et plutôt, au-delà même de la poésie, on va dire presque spirituelle au sens très large du terme. Quand on lit Ananda Devi, on est dans une sorte de chant. Et les chants peuvent être mélodieux tout en étant d'une gravité. Elle parvient quand même à donner à la condition humaine peut-être ce que nous aurions voulu qu'elle soit. C'est-à-dire même au moment où elle devient une réalité torturante, qu'elle nous enchante. Ananda Devi enchante.
Et pour vous, le livre absolu, c'est le Sari Vert, qui est l'histoire d'un vieil homme qui est en train de mourir, accompagné de sa fille et de sa petite fille, et qui, au fil du roman, va révéler qu'il fut un bourreau.
C'est vraiment le livre qui a été pour elle difficile à écrire, dans la mesure où elle avait commencé ce livre avec une voix de femme. Une voix de femme, ça a duré des années. Elle ne trouvait pas la musique quand même nécessaire. Et puis un jour, elle se dit, et si je donnais la parole enfin au bourreau? Et quand le bourreau s'est mis à parler, quand elle s'est donc mise sous la peau de ce bourreau, de cet homme en train de mourir et qui dit des horreurs qui ont fait sa vie, le livre naît. Et elle dit que ce livre-là est celui qui lui permet de dire, même si elle mourait aujourd'hui, elle aurait l'impression d'avoir laissé quelque chose, qu'elle n'a pas vécu pour rien. Donc, moi aussi, je considère le Sari Vert comme son grand livre. Je dirais son grand livre, pas le seul, parce que il y a d'autres livres comme La vie de Josephine le Fou et bien d'autres. Disons que on peut commencer par le Sari Vert et si on n'a pas le temps de lire les autres, puisque l'auteur elle-même estime que c'est le meilleur, on peut lire le Sari Vert.
Et vous, Sami Tchak, en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'auteur, vous vous dites et vous le dites, mais que peut-on écrire après cela ? C'est un absolu.
C'est ça la question qui se pose à l'écrivain. Idéalement, il doit quand même se dire que le meilleur est à venir, quel que soit son âge. Or, quand il parvient à l'idée qu'il a écrit son meilleur livre, alors que fait-il de ce qu'il continue d'écrire ? C'est ça la question. Faut-il s'arrêter quand on a l'impression d'avoir tout écrit ou continuer en pensant que peut-être un jour, on aura à dire « je m'étais trompé ». Moi, je souhaite quand même qu'un jour, Anand se dise « je me suis trompé, le meilleur, c'est celui-ci » ou « le meilleur, c'est celui qui est à venir ».
Ananda Devi, celle qui donne la parole, celle qui dit la beauté et l'horreur, celle que vous aimez et que vous profanez, Sami Tchak, et qui était à ce micro pour Le Jour des Caméléons, roman apocalyptique dont la narratrice est l'île Maurice elle-même.
Je crois que dans tous mes livres, il y a toujours eu une espèce d'obsession à propos de la façon dont on broie les plus faibles, que ce soit les femmes, les enfants ou les pauvres, les marginaux en général. Mais là, j'y ai mis aussi, disons, plutôt, c'est vrai, une analyse sociologique et sociale qui vient peut-être de mon parcours d'anthropologue, mais aussi je fais entendre en fait la voix de l'île. Je deviens sa voix qui se révolte contre ce qu'elle appelle le virus humain.
Avec peu d'amour quand même.
Avec peu d'amour. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'amour à la fois envers l'île et envers les êtres. Mais en même temps, oui, je pense que si on continue à suivre cette voie de manière aveugle et sans compassion, qu'on continue à mépriser les faibles, à ce moment-là, il ne mérite pas de l'amour, ce monde.
Sami Tchak, est-ce que le monde mérite de l'amour ?
Ouais, je pense quand même que le monde peut être désespérant, mais si on ne l'aimait pas, que nous resterait-il ? Non, le monde, quel qu'il soit, mérite de l'amour.
Et la littérature peut réveiller les consciences, peut créer cette empathie, cette sympathie pour les êtres.
Je pense que la littérature, c'est même ce qui fait sa beauté, c'est quand même sa portée universelle qui peut réconcilier même des irréconciliables dans la réalité. Le fait qu'on puisse penser dans sa solitude, au moment où on lit un livre, que peut-être quelqu'un qui me détesterait est en train de lire le même livre et que peut-être il éprouve des émotions aussi fortes que moi, on se sent en fraternité, même avec des êtres qu'on ne supporterait pas ou qui ne nous supporteraient pas. Donc la littérature est là quand même, elle joue ce rôle.
Et toute vérité est dans la littérature, écrivez-vous, parce que si ce livre est consacré à Ananda Devi, il est aussi une réflexion sur l'importance et la place de la littérature plus généralement.
Oui, Ananda Devi est elle-même une représentante noble de la littérature, mais la littérature, elle le sait, nous le disons toujours, dépasse chaque personne qui en a fait son métier. Parce que elle était là avant, elle sera là après. Donc, la réflexion porte aussi sur la littérature.
Elle était d'accord que pour que vous écriviez ce livre, Profaner Ananda, que vous lui prêtiez comme ça des aventures extraordinaires et érotiques avec Ananda le Bouddha ?
Oui, elle était peut-être consentante et d'accord a posteriori parce qu'elle n'a lu le livre qu'au moment où il était déjà accepté chez Gallimard. Elle l'a lu. Elle a donné son accord pour sa parution avant d'en découvrir le contenu. Et sa réponse, quand même, nous a nous-mêmes émus parce qu'elle a été émue aux larmes.
Alors, je parle de cette fiction entre Ananda Devi et le Bouddha. Donc, Ananda, l'écrivaine qui a plusieurs siècles déjà, hein, on n'est pas du tout dans une réalité, on est dans une fiction, va rencontrer le Bouddha qui, lui, a l'éternité derrière lui. Ils vont cheminer et aller jusqu'à l'extase. Comment est née cette histoire assez saugrenue, assez farfelue? Parce qu'ils portent le même nom, Ananda, voilà. Ça veut dire félicité, mais est-ce que ça suffit?
Voilà, disons, le moine Ananda, oui, bien sûr, sur qui Ananda elle-même a écrit, est plutôt, à un moment, ce symbole de l'éternité, mais l'éternité à l'échelle de l'humain. Ce serait quoi l'éternité? L'éternité, tant que les humains seraient sur la terre. Or, on sait que c'est quand même une réalité, les humains programmés pour un jour disparaître. Mais cependant, Ananda, le moine, le disciple de Bouddha, même si les humains disparaissaient, il a quand même avec lui un temps infiniment plus long que celui de Ananda, la romancière. Et comme on le voit ici, cette fiction a été plutôt imaginée et est l'œuvre d'Annie Ferret. Je le précise, puisque cette partie-là, c'est Annie Ferret qui l'a écrite, à partir d'une idée aussi que nous avons eue de travailler sur les ruines. Nous avons fait une résidence, elle et moi, à Tunis, pour travailler sur les ruines. Et là, c'est l'idée de ruine. Qu'est un écrivain? Il peut vivre 150 ans, il devient facilement ruine, alors que les divinités, elles voient passer plusieurs ruines ou deviendraient ruines, c'est-à-dire plus durables que nous.
Alors, c'est vrai que le roman est signé de vos deux noms, oui. Annie Ferret et vous, oui. Sami Tchak. J'aimerais que vous lisiez un court extrait donc, de on va dire ça, de cette fable entre les deux Ananda.
Ananda est maintenant calé, le dos contre le fauteuil, entre les cuisses de l'écrivaine. Elle ne lui demande plus de répéter. Elle n'a plus besoin de gagner du temps. Sa respiration se fait plus courte. Curieux comme deux vieux, débris parmi les débris, peuvent s'intéresser encore à la chair et au désir. C'est comme l'espérance, c'est une flamme jamais éteinte qui parle de plénitude, de toucher, de vagissement, de modeler, voluptueux qui dessine dans l'air avec le doigt des courbes pleines de nuances et d'imagination, avec la prétention d'être encore des corps dont on pénètre la pulpe, des corps gras et souples que l'on aime tâter et entendre gémir. La vieille denoue un petit sac de toile qu'elle a tenu précieusement sur les genoux tout au long du chemin. Le lecteur ne l'avait pas remarqué jusque-là, mais il se rend compte maintenant que ce sac contient tout et presque rien. Le continent de deux vies, le passage qu'elle s'apprête à accomplir. On n'a rien oublié? T'inquiète, les mains de la mémé sortent avec précaution. D'abord une bouteille d'eau lustrale, l'éponge de lufa, puis la fiole qui contient l'huile et enfin deux petits livres. Sur les couvertures, le lecteur peut lire « Le long désir » et « Les hommes qui me parlent ». Le vieux exhale un souffle de satisfaction. Le meilleur l'attend et il le sait.
S'il est question de corps, de littérature dans votre livre Profané à Ananda, Sami Tchak, il est aussi beaucoup question de la mort et cette question de la postérité. Est-ce que c'est une question que se posent tous les écrivains? Quel livre je vais laisser?
Oui, je pense que tous les écrivains peut-être ne se la posent pas et peut-être ne se la posent pas encore. Je crois que, avec l'âge, je pense, elle devient une obsession, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'on est en train de marcher avec des petits pas, puisqu'avec l'âge, les pas deviennent petits, mais ces petits pas sont les plus rapides vers la fin. Et quand la fin approche, on se pose la question, mais tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il resterait de tout ça? Donc la postérité hante tous les écrivains et toutes les écrivaines qui ont eu la prétention et qui ont la prétention qu'ils pourraient laisser quelque chose en plus de tout ce qui existe depuis des millénaires.
Mais vous placez la littérature très haut dans la hiérarchie des arts et de ce que peut être une vie. Écrire pour vous est absolument essentiel, Samy Tchak. Et d'ailleurs, en marge de cette réflexion sur la postérité, vous en profitez dans ce livre pour rappeler qu'un livre, c'est une exigence littéraire et vous vous désolez de voir les livres qui sont actuellement au programme des lycées et des collèges en Afrique, du moins en Afrique francophone.
Oui, je crois franchement que quand on lui consacre une partie de sa vie ou toute sa vie, on a peut-être le droit et l'égoïsme de la considérer comme l'art majeur, tout en reconnaissant qu'il est un art majeur, pas l'unique. La musique, la peinture et tout ça. Et on est désolé de voir là une forme de profanation autre que celle que nous célébrons, c'est-à-dire l'abaissement quand même de sa valeur, l'abaissement de ses niveaux, l'abaissement même dans son enseignement quand on offre à apprendre aux enfants comme littérature ce qui n'aurait peut-être même pas mérité l'éloge d'une poubelle. Et ça, je trouve ça comme quelque chose de triste, que la littérature soit peut-être en train de devenir aussi banale que ça.
Mais vous parlez des programmes pour les élèves du Togo, qui est votre pays d'origine, du Bénin.
Pas seulement du Togo, de beaucoup de pays africains de nos jours. On voit des programmes où des personnes, parfois, dans des cercles de pouvoir, associations d'écrivains, militent pour que leur livre soit au pouvoir et au programme. J'ai même appris, grâce aux réseaux sociaux, par quelqu'un qui n'est pas un inconnu, Serge Billet, qui va sur Facebook pour s'indigner que, il aurait été maltraité, que désormais, il ne paierait plus pour que ses livres soient au programme. Par lui, j'ai appris qu'il y a des pays, au moins la Côte d'Ivoire, où un écrivain peut payer pour que son livre soit au programme. On n'est plus dans la qualité, on est plutôt dans si tu as les moyens de payer, ton livre est au programme. Je me dis, mais quelle insulte à la littérature et quelle insulte que Serge Billet ait quand même, lui, pris le courage, ou peut-être je ne sais pas quoi, d'aller révéler sur les réseaux sociaux qu'il a payé pour que ses livres soient au programme.
Oui, vous dites que de nombreux textes proposés aux élèves ne répondent même pas aux critères d'une bonne rédaction scolaire, mais il faut dire, Samy Tchak, que vous êtes un des grands écrivains de cette période, de ces dernières années, que vous avez signé notamment le Manifeste de la littérature Monde en 2007, et cela dit bien ce que c'est-à-dire que vous, écrivain d'origine togolaise, vous consacrez un livre à une autrice mauricienne avec une autrice française, avec ce désir de l'exigence et de faire de la littérature l'endroit de réflexion du monde, en fait.
Oui, c'est nous sommes des héritiers, je vais dire, tout écrivain quand même aujourd'hui sait que il a au moins 2000 ans derrière lui, il est héritier. Il me semble que même si nous ne parvenons pas nous-mêmes à construire des chapelles, au moins que nous rendions hommage par notre effort à ceux qui nous ont précédés.
Merci beaucoup, Samy Tchak. Profané Ananda est publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir. De vive voix, Pascal Paradou, Raphaël Pluskva, Laura Pinto. À très vite.